mais aussi tout au long de la vie cyclique. Mon approche elle est plutôt ludique, légère, décontractée, sans tabou, histoire qu'on ait les infos sans être crispé, ou gêné ou tendu. Mon objectif, c'est vraiment de transmettre pour qu'on se rende compte que quand on a un cycle menstruel, en fait, on a un super pouvoir. Alors, des fois, on se dit, je ne vois pas trop comment, mais quand on comprend plein de choses, après, on en est sûr. C'est mon rôle. Du coup, au cours de la présentation, la première partie, donc c'est enregistré, je vais quand même vous poser des petites questions, mais jamais sur l'intimité. Il y aura peut-être des mains levées à lever ou des choses à réfléchir soi-même avec soi-même, mais on ne va pas partager ensemble, et vraiment, la deuxième partie, on pourra parler un peu plus d'intimité si vous en avez envie, et ce sera confidentiel. C'est bon pour tout le monde. Ouais. Il faut aussi que je vous dise que moi j'ai l'habitude de transmettre plutôt en groupe d'ateliers. C'est la première fois que je fais une mini-conférence, donc voilà. Donc c'est une de mes premières fois. Si vous voulez bien être indulgente avec moi, ce sera parfait. J'ai mes petites fiches, j'ai un peu la pression, mais ça va bien se passer. Du coup, le thème c'est vivre sa préménopause en famille. Alors la préménopause, c'est quand même une période de la vie qui chamboule un petit peu, ça vient bousculer, mais en fait quand on comprend ce qui s'y passe, ça permet vraiment de se reconnecter à nos envies internes, parce que avant la préménopause, on avait toute notre vie où on s'est beaucoup occupé de tout le monde, et puis à la préménopause, ça commence à être la période où on a un peu moins de personnes à s'occuper et où on peut un peu plus se reconnecter à qui on est, nos envies, si elles ont changé aussi depuis 10, 20, 30 ans, et du coup elle va vraiment avoir un intérêt cette période si on s'écoute. Voilà. Du coup la préménopause c'est pas quelque chose qui s'arrête, c'est quelque chose en nous qui commence à s'aligner, c'est vraiment ce que j'étais en train de vous dire. Bah, ça commence bien, il manque la première. Tu coupes le podcast. En plus, j'ai la pression du podcast. Alors.
Je me viens laisser pour podcast. Ça fait le petit bêtisier.
T'as oublié ses fiches. Ouais. Comment faire?
Bah non, ma première fiche, elle a disparu. Bon, bah voilà, c'est pas grave. Pas grave, j'ai déjà presque tout dit sur la première fiche. Bonjour. Je me suis bien préparée, mais pas suffisamment.
Moi, j'en ai plus une fiche là-bas, c'est peut-être moi qui l'ai prise. J'ai cru que c'était à disposition.
Ah bah d'accord. Merci pour le gage de la débutante. Les petits flyers sont à disposition, mais les fiches, je veux bien les garder. Du coup. Bon, il n'y a plus de flyers.
Tout s'explique. C'est
reparti. Donc du coup, des fois, on a l'impression de la subir et aujourd'hui, on va mettre un peu plus de clarté sur ça. On entend parler de la préménopause, mais aussi de la ménopause et de la périménopause. Est-ce que c'est des mots que vous avez déjà entendus ?
Péri,
pas trop.
Non.
Déjà, ménopause, préménopause, vous,
oui.
Voilà, vous savez un petit peu la différence ?
Oui.
Ouais.
Bon, peut-être que je précise un peu.
Je vais le préciser. Je sonde, mais je vais le préciser, sans problème. En fait, ça, c'est la vie en entier. On a l'enfance, la puberté, la vie menstruée. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la ménopause, la préménopause, la périménopause. La ménopause, c'est un an, 12 mois après avoir eu ses dernières règles. Donc, on ne sait jamais, en fait, quand est-ce qu'elle arrive, parce qu'on ne sait jamais si, des fois, ça fait 10 mois qu'on n'a pas eu ses règles, et puis, hop, on a à nouveau ses règles, et bien, c'est en gros 12 mois après. La préménopause, c'est 7 à 10 ans avant la ménopause. Donc c'est vraiment très en amont. À partir de 40 ans, on peut commencer à être en préménopause. On ne s'en rend pas souvent compte parce qu'au début, c'est des tout petits symptômes qui passent souvent inaperçus. D'autant plus si on est sous contraception hormonale et là, du coup, on ne le voit pas du tout. Et la périménopause, c'est tout autour de la ménopause. C'est 2 ans avant les dernières règles et 2 ans après la ménopause. Donc ça fait entre 4 et 5 ans. Et là, la périménopause, c'est le moment de notre vie où il y a le plus de symptômes, où il y a plus d'intensité dans les symptômes. Donc souvent on s'en rend compte là. Souvent quand on est là, on dit ah là ça y est, il y a la ménopause qui arrive. Je le sens. Bah, c'est vraiment cette période-là. Et pourtant, toute cette partie-là, elle est hyper importante parce que ça commence, on commence à être dans les règlements, des règlements hormonaux et c'est le moment où on peut vraiment agir pour moins subir ici. Et puis après, il y a le post-ménopause qui va aussi 7 à 10 ans après la ménopause. Et il y a encore des petites choses qui bougent, mais c'est plus calme. Là, c'est calme, là, c'est calme, là, c'est intense. Après, toutes les femmes ne vivent pas la ménopause de la même manière, l'après-ménopause de la même manière. Ça dépend aussi beaucoup de comment elles ont vécu leur vie menstruée. S'il y avait déjà du SPM, du dérèglement hormonal, en général, si on ne règle pas ça avant, ici, on le paye un petit peu. Donc c'est aussi intéressant de se dire qu'à partir de 40 ans, on a quand même toute cette phase-là où on peut agir pour se sentir mieux dans son cycle, pour passer une ménopause et une périménopause plus agréable. Est-ce que vous avez des questions sur ça?
Peut-être SPM, ça...
SPM, syndrome prémenstruel, c'est avant les règles quand les femmes, elles s'énervent vite. ce truc qu'on a déjà... Cette petite chaussette qui traîne depuis 2 semaines, on dit « Oh, faudrait la ranger, j'aimerais bien que la famille elle, s'en occupe. » Et puis bah, quand on est avant nos règles, non, on ne l'accepte plus, on explose. C'est un des symptômes du SPM, syndrome prémenstruel. C'est vrai, il y en a plein d'autres des symptômes, mais je ne vais pas trop étaler le SPM. Là. Est-ce que vous avez des questions du coup sur ça ou est-ce que c'est bien? Ok. Alors du coup, on peut avoir des symptômes dans cette période de pré- ou périménopause. Je vais vous proposer de lever les mains si vous vous reconnaissez dans ces situations-là. Vous arrivez dans une pièce et vous ne savez plus du tout pourquoi. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Ah bah oui. Vous avez chaud d'un coup alors que tout le monde trouve que la température elle n'a pas bougé, elle est normale. Ouais. Votre sommeil, il est tellement mauvais qu'à 9h du matin, vous êtes déjà fatigué. Bon, ça fonctionne aussi avec les jeunes enfants. Hein. Donc ça, c'est clairement des symptômes de la préménopause. Donc souvent, on pense qu'on est seul à vivre ces symptômes-là. Et là, comme on le voit, hein, en fait, c'est vraiment très généralisé. Souvent, on n'en parle pas forcément. Il y a beaucoup de femmes qui vivent ça à la préménopause et à la ménopause. Puis, il y a plein d'autres symptômes. Alors là, c'est le moment pas très sympa de la présentation qui peut faire peur et c'est non exhaustif, il en existe encore plus, mais c'est intéressant de savoir que pendant cette période, en fonction des femmes, elles vont pouvoir vivre ou pas ces symptômes-là en intensité moindre ou vraiment importante. On peut avoir une sensibilité au bruit, plus supporter ce bruit, de l'anxiété, des douleurs articulaires quand on se relève. Ça peut tirer la libido qui va être un peu en dents de scie, qui va être changeante. Le sommeil perturbé, parfois on n'arrive pas à s'endormir, parfois on se réveille la nuit, parfois on se réveille super tôt. Ça peut être un des symptômes de la préménopause. L'irritabilité qui va aussi avec la fatigue, l'énergie qui varie beaucoup. On peut se sentir vraiment complètement épuisé et puis 2 jours après être à fond les ballons. Ça peut agir sur la digestion, les bouffées de chaleur, on en entend beaucoup parler, hein, c'est vraiment le symptôme où on n'a pas trop de doute. Pardon ?
Vous êtes plus reconnu pour la préménopause.
Ouais, exactement. Le brouillard mental, c'est ce que je disais, quand on arrive dans une pièce, on ne sait plus, on sait plus pourquoi, mais aussi de plus réussir à se projeter, d'être obligé de tout écrire pour rien oublier, ça fait vraiment partie des symptômes de la préménopause. Et puis, le cycle qui bouge, les règles qui se rapprochent, qui s'espacent, les saignements qui s'intensifient, ça fait aussi partie de la préménopause. Donc ça donne pas très envie, hein. Ça c'est sûr. Là, on se dit pas qu'on a un super pouvoir quand on voit ça. Mais bon, chacune vit ça différemment. Et finalement, il y a environ que la moitié des femmes qui trouvent que ça a un impact sur son confort. Donc ça veut dire que même si on les vit, ça peut... être des petits symptômes qui n'empêchent pas de vivre correctement. Après, se dire qu'il y a quand même la moitié des femmes qui vivent mal à cause de ça, donc c'est intéressant de creuser pour savoir ce qu'on peut faire, parce qu'en fait, tous ces symptômes, ils sont pour 50% génétiques, dus à la génétique, et pour 50% dus à notre mode de vie. Donc on a vraiment la possibilité d'améliorer ses symptômes. On travaille sur le mode de vie, l'alimentation, le stress, le sommeil. Et puis, ce qu'il y a encore de plus difficile, c'est qu'on doit vivre tout ça, et pendant ce temps, on doit continuer d'être performante au travail, dans la vie professionnelle, présente pour les enfants, parce qu'ils ont grandi, mais ils ont encore besoin de nous, et puis bah, continuer à gérer la logistique familiale. Donc, ça veut dire qu'on vit un peu tous ces bouleversements à l'intérieur de notre corps et de nos émotions, mais on doit être au taquet partout. Donc ça, c'est quand même assez difficile, ce qu'on demande aux femmes à cette période de leur vie. Donc on comprend que ça puisse chambouler un petit peu. Du coup, pour mieux vivre cette période, bah, quoi de mieux que d'être soutenue? Et puis bah, la famille, on y vient, parce qu'en fait, être soutenue au sein de son foyer, au sein de sa famille, c'est quand même hyper important pour se sentir bien dans cette période de vie. Ce que je vous propose, un nouveau petit exercice si je vais bien, c'est d'imaginer une bulle de BD qui sort de votre bouche là. Elle est à côté, au-dessus de vous, une grosse bulle de BD. Et dedans, vous notez, avec ce que je vis en ce moment, j'aimerais que ma famille comprenne mon besoin de quoi ? De trois petits points. Et chacune et chacun peut, dans sa tête, compléter. Dans votre bulle, qu'est-ce que vous aimeriez que votre famille comprenne ? Votre besoin de quoi ? Tout à fait. Sauf si on n'est pas en préménopause et qu'on considère qu'on aimerait bien que notre famille comprenne nos besoins, parce qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas que en préménopause qu'on peut avoir des besoins à transmettre à sa famille. Une fois que vous l'avez, bah, vous la gardez. Ça, c'est exactement la base de la communication. C'est savoir ce dont on a besoin. C'est identifier ce qu'on veut vraiment, savoir ce dont on a besoin. C'est être en lien avec ce qu'on vit, avoir conscience, hein, parce qu'en fait, si on ne se reconnecte pas à nos besoins, on ne peut pas le communiquer. Et puis, oser l'exprimer. Ça, c'est encore une autre étape. Parfois, on sait très bien ce dont on a besoin, mais de là, oser l'exprimer au sein de sa famille, ça peut être compliqué. Du coup, je vais vous proposer des outils pour pouvoir justement transmettre sur vos besoins au cours de la préménopause au sein de votre famille. Ces outils, ça va être une manière de communiquer. Très simple, parce qu'en fait, j'avais vraiment envie que vous puissiez l'utiliser en sortant d'ici. Déjà, nommer exactement ce qui se passe pour vous. Juste dire, en ce moment, mon corps traverse plein de chamboulements, c'est compliqué pour moi. Ou, bah, aujourd'hui, je me sens plus sensible. Voilà, c'est un fait, c'est vraiment ce que je ressens. Ou qu'est-ce qui fait chaud en ce moment ? On peut aussi l'exprimer, hein. On n'est pas obligé de le vivre comme ça, en se disant, mon Dieu, est-ce que les autres le voient, est-ce que les autres le voient pas? On peut l'exprimer, en fait, c'est nommer simplement ce qui se passe pour nous. Communiquer sur ses besoins. Donc, j'ai besoin d'une pause de 10 minutes. Là, vraiment, c'est nécessaire. J'ai besoin qu'il y ait moins de bruit autour de moi. J'ai besoin de respirer. Nommer ses besoins. Et puis, plutôt que de s'excuser, prévenir son entourage. Plutôt que de dire oh, « je m'excuse, mais aujourd'hui je suis fatiguée » ou « je m'excuse, mais aujourd'hui j'arrive pas à suivre ». En fait, ça induit une culpabilité d'être dans cet état-là. Comme si vous étiez fautive d'être dans cet état-là, alors qu'en fait, c'est pas vous, c'est vos hormones qui font ça. C'est quelque chose que vous subissez, donc vous n'allez pas vous en excuser. Par contre, c'est intéressant dans la communication familiale de prévenir. Voilà, je te préviens, aujourd'hui je suis en énergie basse. Ou bah, je vais sûrement être moins disponible aujourd'hui parce que je ne me sens pas très bien, j'ai un brouillard mental, j'arrive pas à penser à tout. Ou bah, aujourd'hui, je vais faire de mon mieux, mais ça ne va peut-être pas être comme d'habitude. Voilà, prévenir l'entourage. Est-ce que c'est des outils que vous utilisez déjà en communication au sein de votre famille ? Pas forcément.
Moi, je les utilisais plus quand j'avais mes règles. J'avais que ça allait arriver, je l'ai prévenu.
Ouais.
Je l'ai été faite.
Ouais.
Mais là, je n'ai pas.
Ouais.
Ça ressemble un peu, je trouve, à, au, avant.
Tout à fait. Ça ressemble beaucoup. Ouais. Tout à fait. Sauf que du coup, ce n'est pas juste à une période, c'est sur du long terme. Donc, et ça peut être plus intense aussi. Si vous ne l'utilisez pas déjà, est-ce que c'est des choses que vous pouvez vous dire que c'est facile à utiliser? plein, c'est des choses que vous allez pouvoir mettre en place. Voilà. L'idée, c'est un peu d'ouvrir sur des solutions faciles à mettre en place. Alors là, dans ce cas-là, c'est vous qui êtes actrice de toutes ces propositions pour mieux vivre votre préménopause au sein de votre famille. Mais l'idée, c'est qu'on va inclure les proches. Est-ce qu'ici, il y a des proches qui sont là pour justement soutenir des femmes autour d'eux ou autour d'elles qui sont en préménopause ou qui pourraient rencontrer des femmes qui sont en préménopause? Pas forcément. Je vais vous proposer d'imaginer qu'il y a une femme qui vit ses symptômes de la préménopause là, tout de suite, maintenant. On la voit, elle se décompose, on voit qu'elle est épuisée ou qu'elle subit elle est submergée par une émotion forte, elle est très agacée ou elle a une bouffée de chaleur. On la voit là, elle est là à côté de nous. C'est quelqu'un à qui on tient, qu'on aime beaucoup. Nous, quelle personne on pourrait être pour cette femme? Est-ce que vous pensez que vous seriez plutôt une personne qui voudra l'aider sans trop savoir comment? Ou est-ce que vous seriez plutôt une personne qui se mettra en retrait pour pas trop la déranger, la laisser vivre son truc et puis pas interférer? On a toutes quelqu'un autour de nous qui est dans un de ces deux, dans ces deux profils, dans ces deux catégories. La bonne nouvelle, c'est que pour chacun de ces profils, ça peut être un soutien. Quand on a plutôt quelqu'un qui veut aider, mais qui ne sait pas trop comment faire, en fait, il faut lui conseiller. Alors si vous êtes plutôt dans cette catégorie-là, vous êtes plutôt quelqu'un qui veut aider, mais que vous ne savez pas trop quoi faire, l'idée, c'est plutôt de formuler des demandes claires. Est-ce que tu veux que je prenne le relais 5 minutes ? Est-ce que tu veux que je prépare quelque chose pendant que toi, tu souffles, faire des propositions très claires sur est-ce que ça peut t'aider? Parce que parfois, quand on a envie d'aider, on le fait parfois un peu maladroitement et ça ne correspond pas toujours aux besoins de la personne qui est en difficulté. Et donc, du coup, pouvoir aider en laissant le choix, c'est vraiment une démarche qui est intéressante. Comme ça, la personne qui est en difficulté, elle se sent soutenue, mais elle ne se sent pas non plus obligée et elle n'a pas l'impression qu'on marche sur ses plates-bandes parce que quelque part, peut-être qu'elle peut se sentir mal de ne pas réussir à faire comme d'habitude. Donc le fait de proposer son aide, c'est différent que de faire à sa place. Donc ça, c'est pour le premier profil, c'est le premier conseil que je peux vous donner. Si on est plutôt sur un profil, quand je vois une femme en difficulté comme ça, je me fais tout petit parce que je la laisse gérer son truc, j'ai surtout pas envie de l'embêter. Dans ces cas-là, moi, ce que je peux plutôt vous conseiller, c'est d'ouvrir un espace de présence. Parfois, on a peur de mal faire ou de déranger, mais en fait, sans être intrusif, on peut quand même être présent pour cette personne-là, sans aller proposer de l'aide, juste en étant dans la présence. Je te laisse de l'espace, mais tu peux venir vers moi quand tu veux. J'ai pas envie de te déranger, mais je suis juste à côté de toi. Donc ça, c'est une autre démarche. Ça dépend comment on se sent, comment on se positionne. Et des fois, ne pas intervenir, ça peut respecter aussi le besoin de calme de la personne. Elle n'a pas toujours besoin qu'on vienne lui demander. Et puis, en autre conseil, ce qui aide vraiment parfois, ce sont des petits gestes très concrets, des choses simples et accessibles que les proches peuvent faire pour nous soulager. Et là, je vais vous faire participer un petit peu. Si vous voyez une femme qui a des bouffées de chaleur, on voit, elle a une chaleur soudaine, elle est très inconfortable, elle a l'impression de quelque chose qui monte. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour elle?
Si elle est dans un espace clos, sortir avec elle, prendre l'air.
Ouais.
Aller à l'espace, avoir de l'eau.
Vous avez d'autres idées? Vous les avez presque toutes celles. Alors, en tout cas, celles auxquelles j'ai pensé, il y en a plein d'autres, des manières d'aider, mais c'est les manières faciles d'aider, c'est ouvrir les fenêtres pour aérer, accompagner la personne dans un espace où il fait moins chaud, un verre d'eau fraîche, pas une tisane, ça fait encore plus monter, ou un thé ou un café, ça fait encore plus monter la température, lui proposer un éventail et surtout ne pas la coller. C'est pas le moment d'aller lui faire un gars. Si on rencontre, on va dire, une autre femme, parce que la pauvre, autrement, elle va avoir beaucoup de symptômes, on voit qu'elle a des difficultés à suivre la conversation, elle oublie des mots, elle perd un peu le fil de la conversation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? On est en train de discuter avec elle. Absolument. Vous aviez tout. Répétez doucement. Alors, parlez plus doucement pour qu'elle ait le temps d'intégrer. Répétez si besoin. Prendre des notes, faire des listes. Et ne pas se moquer, évidemment. Pas lui dire, mais attends, t'as Alzheimer ou quoi? Parce que alors là, ça ne l'aide pas. Hein. Il faut quand même savoir que ça, c'est clairement un symptôme de la préménopause et périménopause et que ça disparaît après. On retrouve notre cerveau. C'est rassurant.
Peut-être
hein.
Que ça capte facilement, c'est pas les mêmes
bien sûr.
Personnes, les mêmes façons d'apprendre.
Ouais.
Quelqu'un qui apprend rapidement et l'autre lentement, il faut expliquer doucement.
Tout à fait. Mais après, là, c'est vraiment sur la période de préménopause où, en fait, c'est physiologique, en fait, hein, dans le cerveau. Il se passe quelque chose au niveau des synapses, en fait. Vu qu'il y a des hormones qui s'effondrent, on a moins de certaines hormones qui nourrissaient hein, le cerveau, bah, il est affamé et du coup, bah, il n'arrive plus à suivre, en fait. Et après, il s'adapte. Et c'est pour ça qu'après la ménopause, eh ben, les choses rentrent dans l'ordre parce que le cerveau s'est adapté. Ah oui.
Oui, sur les tableaux précédents, qu'appeliez-vous proche? Les proches, c'est qui pour vous?
Bah là, on parlait de la famille, mais pour moi, c'est même plus large en fait.
Oui, mais proche, pour moi, c'est le premier, c'est le mari déjà.
Ouais.
Ou l'homme qui vit avec.
Le mari, les enfants.
Donc il faut déjà qu'ils soient au courant de la chose, de savoir ce qui se passe.
Bien sûr. C'est pour ça que toute la première partie, c'est comment je communique ce que je vis avec mes proches. Et une fois que j'ai communiqué, qu'est-ce que eux peuvent faire pour moi? Et je suis d'accord que le.
Ça, c'est déjà comment ça fonctionne.
Comment ça fonctionne?
Bah, tous les hommes sont au courant.
Bah oui. Mais pourquoi ils ne sont pas au courant? Pourquoi ils ne sont pas au courant?
Est-ce qu'ils osent en parler entre eux? Est-ce que c'est pas un tabou quelque part?
Bah, si, il y a un tabou.
Pour libérer la parole, surtout.
Ouais. Et en fait, ces espaces-là, on a la chance voilà, d'avoir ces espaces-là mis en place. Par la maison de quartier pour libérer la parole et pour que les femmes elles se sentent moins seules. Parce que quand on se sent seule et que pas seule dans son couple, mais seule à vivre ça, on se demande si on est normal. Et du coup, on hésite à en parler. Et donc déjà, il y a se rassurer sur ce qu'on vit. Après, voir qu'on n'est pas seule, qu'on peut en parler ensemble. Et après, comprendre que c'est important d'en parler en famille, avec le mari, avec les enfants. Mais moi, j'ai envie d'ouvrir plus, hein, dans les entreprises. Pas les mêmes, on n'a pas la même efficacité et savoir qu'on est dans cette période de cette vie et pouvoir dire bah moi en ce moment voilà c'est plus difficile parce que je suis ça, c'est aussi très important. Mais ça bougera j'espère.
Ça
aujourd'hui.
Il y a d'entreprises qui prennent en compte.
Oui, de plus en plus. Absolument. Je vous ai mis la réponse pour le prochain. Si on a une femme en face de nous qui est submergée par ses émotions, qui a vraiment qui est hypersensible, voire un peu irritable, je vais dire. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? Sans regarder la réponse.
Donner de temps.
Oui, une pause. cette femme qui est vraiment submergée par ses émotions, bah, on ralentit. Déjà, on ne prend pas ça pour soi. Si la femme elle est en train d'exploser, bah, on ne se dit pas bah, mince, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle a contre moi. Parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec la personne en face, ça a à voir elle avec elle-même et ce qu'elle vit, et le fait qu'elle n'arrive plus à gérer ça. On coupe le bruit au maximum. En tout cas, on essaye de faire calmer un petit peu dans le bruit autour. On lui propose une pause, de s'isoler. Et puis, si les deux ont envie, un câlin. Selon leur consentement, il n'y a pas d'obligation dans un câlin. Si les deux ont envie. Et puis, bah, offrir un temps de silence et peut-être lui demander, parce que des fois, quand il y a beaucoup d'émotions, c'est lui demander est-ce que tu as envie d'en parler ou est-ce que tu as envie que je te laisse tranquille, en fait. Parce que ça dépend des moments et des femmes. Dernière situation, on a une femme qui a l'impression d'être complètement vide en énergie, déchargée, batterie complètement déchargée. Elle est HS. Qu'est-ce qu'on lui propose pour pouvoir l'aider ?
Du sucre.
Du sucre ? Ouais, du chocolat, soyons clairs. Hein. Alors, je vais vous donner une astuce, c'était pas prévu, mais quand on est dans un état de fatigue ou d'énervement, juste à 17h, là, c'est qu'on manque de tryptophane. Et en fait, les tryptophanes, on les retrouve dans un petit mélange, j'appelle ça un mélange spécial sérotonine, parce que ça fait remonter l'hormone du bonheur d'un coup. On écrase une banane, si on aime ça, on met des pépites de chocolat noir, et puis soit des amandes, soit de la purée d'oléagineux.
Pardon ? Merci les calories.
Et bien, en fait, non, parce que c'est très bien intégré.
Non,
ouais, c'est, et ça va.
Prendre du poids déjà.
Oui, oui, mais là du coup ça fait pas prendre du poids parce que ça évite d'aller grignoter jusqu'à l'heure du repas du soir.
D'accord.
Et en fait c'est très bien intégré, c'est un mélange nutritionnel qui est très bien intégré et qui va vraiment permettre de remonter l'énergie. Et ça fait pas prendre du poids, c'est en nutrition. Hein, donc on peut se faire plaisir parce que c'est super bon quand même. Ça fait du bien au moral et ça permet de tenir un peu plus longtemps. Du coup, les réponses que j'avais mis moi, c'est avoir un moment de repos quand on est complètement fatigué. Mais alors, du coup, la personne qui aide peut bloquer dans le planning en disant là, je gère tout et tu as 2 heures ou tu as une demi-journée, tu prends que du temps pour toi, tu te reposes. Le plaid, la petite tisane, le petit moment cocoon, hein, ça c'est sympa. Ne pas surcharger de « et t'as fait ça, et il y a encore ça », parce que quand on est fatigué, c'est pas du tout la chose à faire. Et filer un coup de main, dire « là je prends ». Donc là on a vu tout ce que nous, en tant qu'adultes, on peut faire pour aider ces femmes, mais on va intégrer aussi les enfants et les ados, parce que en général, quand on est dans cette période de vie, enfin pas en général, mais ça arrive qu'on vive avec des enfants, des ados. Et du coup, il faut aussi en parler aux enfants, parce qu'en fait, ils voient qu'il y a quelque chose qui se passe, et il faut qu'ils comprennent ce qui se passe. Et en fait, leur en parler, c'est pas leur mettre une charge sur les épaules qui ne les regarde pas, c'est juste qu'ils puissent apprendre que même les adultes, en fait, ils ont des besoins. Et que suivant les périodes de vie, eh ben, on peut avoir des besoins différents. On n'est pas toujours là en tant que maman pour tout donner. Parfois, il faut pouvoir exprimer que on est en difficulté. Alors là, il y a des petits outils. J'ai fait court pour les enfants parce que pour moi, expliquer, c'est quand même la meilleure façon pour qu'ils comprennent et qu'ils naturellement et intuitivement, ils soient là en soutien. Mais on peut mettre en place la carte stop. Alors, soit on a des enfants assez jeunes et on peut le faire avec lui, soit on prend, ou avec elle, soit on prend une carte dans un jeu de société, et en fait c'est un peu un code. Hop, je sors la carte, ça veut dire maman a besoin de souffler 5 minutes, calmez-vous tous, et comme ça il n'y a pas besoin pour la maman de remettre de l'énergie, à se dire ah non mais là j'en peux plus, il faut absolument que tu calmes, hop c'est le code. Et ça marche assez bien. Après, si les enfants sont un peu plus grands, avoir la possibilité de bien comprendre, leur expliquer en amont qu'ils peuvent être soutien avec cette phrase magique. Tu veux que je t'aide ou tu veux que je te laisse tranquille, maman ? Déjà, je trouve que d'entendre ça de la part de ses enfants, quel soutien ! Et de l'autre côté, pour l'enfant, c'est aussi hyper valorisant de ne pas être toujours celui qui reçoit. L'aide, l'amour, c'est aussi le donner. On est dans l'équilibre du donner-recevoir. Et moi, je trouve que c'est hyper valorisant pour les enfants de leur donner cette possibilité de dire cette phrase magique. Tu veux que je t'aide ou tu veux que je te laisse tranquille? Puis si on voit qu'on a des ados ou des enfants qui sont un peu déstabilisés par ce qu'on vit, parce qu'ils ne reconnaissent pas forcément leur maman, parce que parfois on peut être vraiment complètement déphasé à l'après-ménopause, les rassurer. T'as rien fait de mal en fait, c'est juste moi qui... Il y a des choses qui bougent à l'intérieur de moi, ça va passer, t'inquiète pas. Ça n'a rien à voir avec toi.
Encore une minute.
Bon, ça va aller.
Il est gentil.
Donc quand on regarde tout ça, tu me mets la pression. Hein, c'est vrai. J'ai mélangé mes fiches. tu mets vraiment la pression. Zut. Je suis à la fin en plus. Quand on regarde tout ça, ce qu'on vit, comment on l'exprime, comment les proches réagissent, on voit bien que traverser tout seul, ça n'a pas d'intérêt. En fait, être soutenu, ça change tout. Il n'y a rien qui s'arrête vraiment à l'après-ménopause. Ça bouge, ça bouscule. Et ça se vit vraiment mieux quand on peut communiquer et se sentir entouré. J'ai fini. Merci beaucoup pour votre écoute. Du coup, on va faire un petit temps d'échange.